Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Jean-François au 3921. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous ?
On essaye d'aller bien. Bon. On essaye d'avancer.
Alors, dites-moi tout Jean-François.
Alors, concernant mon frère, Hugues Luton, a disparu le 30 novembre 2013. Ça fait déjà un peu plus de 6 ans. C'est pas une disparition volontaire. On est convaincu avec la justice, les policiers, même si on est bien d'accord, pas d'accord sur bien des choses, on est convaincu qu'il a été en fait assassiné.
D'accord, c'est donc
lors de cette soirée du 30 novembre.
C'est donc une disparition inquiétante.
C'est une disparition inquiétante au début. Oui.
D'accord. Il a été. Que se passe-t-il ce 30 novembre 2013
30 novembre 2013, pour résumer, il est en compagnie ce soir-là de 3 individus sur Saint-Étienne. Ils partent pour retirer de l'argent. Enfin, c'est mon frère qui est censé retirer de l'argent. Mmh. Un distributeur automatique, les caméras qui en attestent. Et ensuite, avec ces 3 individus, ils se rendent sur un plateau isolé, sur l'hauteur de Saint-Étienne.
Oui.
Et, selon les dires des 3 individus, ils laissent mon frère à sa demande sur ce plateau, qui est isolé. C'est pas isolé la journée. La journée, c'est très fréquenté. Il y a des marcheurs, il y a des promeneurs, il y a des
détectives. Oui.
Mais c'est vrai que le soir, c'est pas un endroit très... un petit peu lugubre.
Votre frère connaissait cet endroit ?
Alors, mon frère, cet endroit, pas particulièrement. Bon, il ne connaissait pas cet endroit. Non. Et il fréquentait ces gens-là depuis, on va dire, une petite année. Mon frère n'avait pas de casier judiciaire, il était soignant, donc voilà. Voilà, il s'est trouvé en mauvaise compagnie au mauvais moment. Donc, les individus expliquent ensuite qu'à sa demande, ils ont laissé mon frère sur les hauteurs de ce plateau du Bessy. Mmh. Ils sont ensuite partis se restaurer dans un restaurant rapide, McDonald's, et pris de remords, les braves gens sont retournés sur ce plateau du Bessy et à ce moment-là, mon frère est disparu. Ils ne l'ont pas retrouvé. Donc, ils sont rentrés chez eux. Rentrer chez eux. Très rapidement, l'enquête a bien démarré au début, après que ça s'est gâté, l'enquête de police a bien démarré et on a pu se rendre compte rapidement que ces 3 individus qui ont été interrogés quand même mentaient sur beaucoup de points, sur leurs horaires. Il y a des propos fantaisistes expliquant, enfin le conducteur de la voiture expliquant qu'il avait vu mon frère le lendemain et puis que ce dernier avait quitté son domicile et travaillait sur Saint-Étienne. Tout ça était évidemment faux. Voilà, les policiers se sont rendus compte qu'il a très rapidement revendu le véhicule, après avoir grandement nettoyé le véhicule, et notamment le coffre de la voiture.
Mmh.
Les policiers ont saisi le véhicule, ont procédé à des analyses ADN, par deux labos différents au cours de l'enquête.
Oui.
Et hélas, on n'a pas pu savoir si le sang qu'il y avait, puisque il y a une réaction au luminol, le luminol c'est un produit qui permet de savoir s'il y a eu des traces de sang ou pas, et effectivement les labos n'ont pas pu déterminer, parce que c'était trop détérioré et pas interprétable, ils n'ont pas pu déterminer si le sang était d'origine animale ou humain. Mais dans ce dossier, on s'échine depuis, je le répète encore, de nombreuses années, à réclamer l'analyse d'éléments pileux qui sont présents dans cette voiture depuis le début du dossier et qui n'ont jamais été analysés par les labos. Pas analysés parce que pas demandés par la justice.
Et est-ce normal que la justice n'ait pas demandé cette analyse pileuse ?
Et ben c'est effectivement curieux. On réclame ça par le biais de notre avocat, moi-même directement, auprès des juges, et on n'a absolument pas de réponse. On a encore demandé ça récemment, et on se heurte au silence inexplicable de la justice. On a également un CD qui concerne la téléphonie dans ce dossier, un CD capital, qui est sur des procès-verbaux, mais qui est curieusement absent de la procédure. C'est un dossier, c'est un CD, pardon, qui est capital dans ce dossier, là aussi, on demande.
Et que renferme ce CD ?
Ce CD, il renferme les, comment dire, toutes les fadettes téléphoniques d'un des trois individus.
D'accord.
Je ne vais peut-être pas vous dire lequel pour les besoins de l'enquête. Mm-hmm. Secret d'instruction, ça pourrait être fâcheux de dire qui ça concerne, mais ce CD a une importance capitale parce qu'il concerne un des trois individus qui donne une version différente de ces deux autres amis et avec le CD, on pourrait facilement vérifier si ce qu'il dit est vrai ou faux. Mais il n'y a plus de CD.
C'est-à-dire
qu'ils n'ont pas perdu.
Oui, il a été perdu en cours de route ?
Je ne sais pas. On n'a aucune réponse. Est-ce qu'il est perdu ? Est-ce qu'il est égaré ? Est-ce qu'ils l'ont quand même ? Je ne sais pas du tout. Nous n'avons aucune réponse de la justice depuis des années. Malgré l'intervention de notre avocat, on n'a aucune réponse. Mmh. Donc on se heurte à une justice, je vous laisse imaginer ce que ça peut être.
C'est toujours compliqué, vous savez, pour moi, de juger d'une situation comme celle-ci, d'abord parce que je pense que vous êtes le premier à même d'avoir le jugement le plus juste concernant la justice à ce niveau-là. Parce que, mais par expérience, je sais que les familles de personnes disparues dans des circonstances curieuses et qui vivent ces disparitions inquiétantes, le temps pour ces familles n'est jamais celui de la justice. Et qu'il y a bien évidemment une très grande attente de la part de la justice qui, elle, prend son temps plus qu'il ne le faut sans doute pour vous, mais c'est évidemment un temps qui n'est pas le nôtre. Maintenant, il y a quand même deux éléments assez curieux dont vous parlez là, qui pourraient apaiser les esprits, en tout cas apaiser et rassurer votre famille et vous. C'est cette analyse pileuse, bien évidemment, et puis...
Vous avez raison, Olivier, parce que c'est des éléments qui sont faciles à faire. Dans ce dossier, on a un ancien commissaire de police qui est venu à notre rescousse, si je puis dire, par le biais d'une association des victimes et qui a fait un travail formidable.
Oui.
Et qui nous a répété souvent à la lecture du dossier, de ce qu'il a pu voir, qu'effectivement, il était vraiment curieux que ces éléments-là aient pu échapper à la justice. Vraiment, c'est assez incompréhensible.
C'est assez curieux parce que j'ai le souvenir... il y a déjà un certain moment, hein, vous voyez, de l'affaire des disparus de Mourmelon. Donc on parle d'une affaire qui a plus d'une trentaine d'années. Et je me rappelle que pour ce cas-là, l'analyse des poils et des cheveux donc, avait été extrêmement précieuse pour la police afin déterminer les jeunes militaires qui avaient été... enlevé par l'adjudant Chanal, je crois. Chanal.
Oui, c'est ça.
Et,
Chanal,
oui. Et ça n'est pas le plus coûteux, en plus, je crois.
C'est ce que j'ai entendu. Alors, ils ont récemment, c'est vrai, refait une nouvelle analyse ADN, une troisième, des vérifications, et on n'a pas pu savoir vraiment en quoi elle consistait. Et elles ont été, comme je le pensais, inutiles, alors que les éléments pileux dont je parle sont dans les scellés, sont sous-scellés et sont analysables.
Jean-François, on va continuer à parler de cette histoire et évoquer d'autres éléments, parce que je suis intimement persuadé que ce genre d'histoire tient aussi à certains témoins qui n'osent pas parler. Et je suis très partisan d'évoquer toujours... ces histoires de disparition, de meurtres non élucidés, car souvent on s'aperçoit que en répétant les choses, en témoignant de l'émotion des familles, eh bien à un moment la situation peut se débloquer. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants.
Je reste avec vous. Merci.
À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Si vous nous rejoignez juste maintenant, il est 22h45 et vous êtes sur Europe 1, sur la libre antenne. Et nous évoquons avec Jean-François la disparition inquiétante de son frère, intervenu le 30 novembre 2013 sur les hauteurs de Saint-Étienne. Votre frère, Jean-François, était accompagné de trois personnes. dont on a peu parlé finalement, et peut-être que vous ne tenez pas plus que cela à parler de ces trois personnes, mais je pense qu'il est intéressant aussi et important pour les auditeurs et pour ceux qui éventuellement verraient un intérêt à ce que vous précisiez quel était le cursus de ces trois personnes, parce que vous parlez de votre frère qui est visiblement un jeune homme qui a une existence tranquille, pas de casier judiciaire, aide-soignant. Qu'en est-il pour ces trois personnes ?
Alors, leur profil est tout à fait différent. Les trois ont des casiers judiciaires pour des motifs divers et variés, vol, violence. L'un d'eux, le plus âgé, le conducteur de la voiture, est considéré comme dangereux. D'après ce que nous ont dit les policiers, dangereux, violent.
Dangereux.
Dangereux, oui, j'en dirais pas plus, mais dangereux. Mm-hmm. Ce qu'on m'a dit, ce que m'ont dit les policiers proches du dossier. Hein. Voilà, quelqu'un qui peut être très dangereux, qui peut aussi être mythomane, donc qui raconte beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Mais il a un profil inquiétant. On a un deuxième individu qui, au moment des faits, était le plus jeune, devait avoir, je crois, 19 ans. Lui aussi avait un casier judiciaire pour des cambriolages. Et puis on a le troisième qui est, entre guillemets, le personnage le plus faible, qui est les problèmes psychiatriques et qui était le propriétaire, le locataire de l'appartement d'où sont partis mon frère et les trois individus. Alors, le petit monde que je vous décris, là, faut être honnête, c'est des gens qui ce soir-là avaient un petit peu bu, qui s'adonnaient à la boisson, sans doute à fumer et autres.
Voilà. Est-ce que ce soir-là, on s'adonne à la boisson comme ça, de manière festive, ou c'était ce sont des personnes qui avaient l'habitude de boire régulièrement
et... Oui, c'est ce milieu, oui. Les trois, là, sont les personnes qui avaient l'habitude de boire, et voilà.
Et qu'est-ce que votre frère vient faire avec ces gars-là ?
Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? C'est vrai que mon frère avait, depuis un certain nombre d'années, des problèmes avec l'alcool. Et lorsqu'il avait, on va dire, du temps libre, parce qu'il travaillait quand même à ce moment-là à temps plein, hein,
oui.
Il était soignant dans une maison de retraite. Donc, hélas, quand il avait du temps libre, il avait fini par rencontrer ces gens les logements qu'ils occupaient, enfin, qu'occupaient. Un des trois n'était pas très loin du sien, donc
D'accord. Il
a dû faire leur connaissance et les fréquentait pas assidûment, mais à peu près régulièrement et à peu près depuis une année.
Mmh.
Voilà. Ouais. Et voilà, je l'avais moi-même mis en garde de faire attention à ses fréquentations et voilà, de faire attention un petit peu à ce qu'il pouvait dire.
Est-ce qu'il était le seul à travailler ? Est-ce que ces trois
Oui. Oui, c'est pour ça que nous, on voit un motif purement crapuleux lié au code de la carte bleue qu'il n'a pas pu donner parce qu'il était effectivement le seul dans ce petit groupe, dans tous ces gens qu'il y avait autour et d'autres personnes autour, mais qui a priori n'y sont pour rien. Il était un petit peu le pourvoyeur, celui qui payait, celui qui avait de l'argent, celui qui avait une carte bleue.
Oui.
Donc ce soir-là, ils l'ont amené, d'après leur dire, c'est lui qui volontairement voulait retirer de l'argent pour leur payer à boire, mais bon.
Il tire combien d'argent ce soir-là ?
Il ne peut pas en retirer ce soir-là, il ne peut pas en retirer parce que il n'a pas pu taper le code de sa carte bleue, pardon, parce que moi je sais que, c'est tout bête, mais ça ne rappelait pas, il n'était pas du tout technique, informatique, si on peut dire.
Ouais.
Donc ce code de la carte bleue, il le notait sur un petit papier. Et ce soir-là, il n'avait pas ses petits papiers. Donc je pense qu'il n'a absolument pas pu retirer d'argent ce soir-là.
Donc, vous pensez que cela peut être l'une des causes enfin, je ne sais pas, ils peuvent se disputer ce soir-là à cause de ça ?
Je le pense. Il y a des rumeurs dans cette affaire, il y a des témoignages. Quand vous disiez, alors Olivier, que le fait de parler à l'antenne, ça peut permettre de délier des langues. Dans cette affaire-là, il y a certainement des gens qui savent ce qui lui est arrivé ou qui ont une information capitale, qui savent.
Moi, je vais vous dire quelque chose, Jean-François. Par habitude aussi, parce que j'ai fait pas mal de documentaires autour de disparitions. Pas mal fréquenté aussi certains policiers qui vraiment travaillent avec l'obsession, souvent par rapport à ces affaires où on a des disparitions, où on a des meurtres comme ça de jeunes personnes, de femmes, de jeunes garçons aussi, et qui sont de véritables chasseurs et qui ne lâchent rien. Vous voyez, ils étaient sur l'histoire d'Estelle Mouzin d'ailleurs. On n'espérait plus du tout avoir, vous voyez, et ils n'avaient jamais lâché cette histoire-là. Bon, mais trois personnes pour cette histoire, il y a obligatoirement des gens qui savent. Obligatoirement. Parce que je ne veux pas croire qu'il y a trois personnes qui, ce soir-là, commettent quelque chose. Parce que votre frère, il est sur ce plateau ce soir-là. Vous avez dû vous poser ces mêmes questions. Je pense que vous allez me dire, on l'aurait retrouvé s'il était tombé, s'il était...
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est ce que j'ai signalé à de maintes reprises. Bon, le plateau du Bessic, sur le tour de Saint-Étienne, c'est vrai que c'est grand, c'est un secteur isolé, mais c'est pas boisé. Donc, en fait, c'est très simple, si on peut dire. C'est que si ces gens-là disent vrai, j'aimerais qu'ils disent vrai. Pourquoi pas ? S'ils disent vrai, qu'ils l'ont laissé à sa demande, et qu'il y a un malaise, il faisait froid, et donc il y a un petit peu bu, il va marcher un petit peu, il va faire un malaise, il va tomber là où il peut. Et on doit le retrouver très facilement.
Mais est-ce qu'il est accidenté, ce terrain ? C'est-à-dire, est-ce que...
Non. Non, c'est des prés, comment dire, même pas pentus, légèrement vallonnés.
D'accord, il n'y a pas de crevasses. Il n'y a pas de crevasses comme.
Non, alors il n'y a pas de crevasses, mais il y avait. Alors, il y a eu un. Ici, je suis désolé de le dire, mais vous ne connaissez pas très bien leur dossier, parce que c'est, à l'origine, ce secteur du Bessie, c'est un ancien secteur minier. Les policiers ont fait penser, ils nous ont dit, mais il y a des galeries de mines, etc.
Il y a des trous.
Des galeries de mines. Non, pas tout à fait. Moi, je me suis renseigné moi-même auprès d'une association proche de Saint-Étienne avec des anciens qui connaissaient parfaitement le secteur minier sur cet endroit et qui nous ont dit, mais monsieur, il y a bien longtemps que tout est remblayé, bouché, il n'y a aucun accès aux galeries, c'est un fantasme, il n'y a plus rien au sol, plus aucune trace. Il faut avoir des plans pour savoir que jadis, il y avait des entrées de puits. Donc nous, on a eu un travail, si vous voulez, il faut quand même le dire aussi, le motif de mon appel, c'est que je suis quand même en colère contre la justice et la police, parce que, je ne l'ai pas dit, mais les recherches pour aller voir mon frère ont démarré 2 mois après le signalement de sa disparition. 2 mois, alors que les 3 individus indiquaient un endroit précis. Ils n'ont pas dit « il est perdu dans Saint-Étienne », ils ont dit « on l'a laissé ici,
d'accord,
à telle heure ».
D'accord.
Les policiers ont mis 2 mois pour aller voir. 2 mois. Et encore 2 autres mois pour faire venir une brigade cynophile. Donc ça fait 4 mois sur un plateau. Il y a eu du vent, de la pluie, de la neige, des chiens à mon avis. On n'a pas pu voir grand-chose.
C'est
aussi une affaire où il y a eu, où il y a eu des négligences coupables. Je ne veux pas dire lesquelles, il y en a beaucoup. Où le travail n'a pas été fait correctement parce qu'on n'en serait certainement pas là. J'ai peut-être oublié de le dire, mais ces 3 personnes ont été placées sous statut de témoin assisté 5 ans après les faits. 5 ans après les faits. Alors que ça aurait dû être fait.
Comment vous expliquez ça ? Parce que là, pour le coup, on est obligé de.
La lenteur de la justice, il y a eu 3 juges d'instruction qui se sont succédés. La 2e juge d'instruction a procédé à une garde à vue quelques jours avant de partir. Elle a été mutée à Grenoble quelques jours avant de partir. Je vous l'ai dit, une confrontation où il y avait en fait, elle a décidé de faire une confrontation entre 3 individus, et quand vous regardez le procès verbal, la confrontation que j'ai consultée récemment chez mon avocat, il n'y a que 2 individus qui étaient présents. Où est le 3e ? C'est quand même curieux. Et tout au long de cette enquête, ça a été le cas. Sans arrêt, des bourdes, des erreurs, des négligences, des choses inexpliquées, c'est des gens qui auraient dû tenir un examen, passer au moins sous statut de témoin assisté, mais au bout d'un an, au bout de 6 mois, il n'y avait pas plus d'éléments qu'il y en a maintenant. Tous les éléments, ils les avaient. Ils avaient de la téléphonie, ils avaient des témoignages, ils avaient la voiture, ils avaient des ADN, ils avaient...
Qu'est-ce qui déclenche leur mise, en tout cas leur...
Le placement sous témoin assisté,
quel est l'élément qui déclenche ça 5 ans après ?
Alors l'élément, c'est quand même... on avait dit au juge quand même des indices graves et concordants. Quand on lit le dossier, si vraiment on lit comme il faut, c'est une succession de mensonges, le gars qui revend sa voiture très rapidement, qui fait pression sur des témoins, qui lave sa voiture, qui ment sur tout, qui, suite à un article paru dans la presse stéphanoise comme quoi l'enquête était relancée, ce n'était pas du tout le cas, et ben, cet individu, hop, tout de suite, suite à ça, il part et il vagabonde sur toute la France. Ça fait beaucoup.
Il est clair que là vous citez tout de même des comportements pour le moins très curieux.
Oui, vous savez, mon avocat me disait, et d'autres aussi, oui, il y a des dossiers très connus médiatiquement où des gens ont été aux assises pour moins que ça. Pour moins que ça.
Pour beaucoup moins que ça. Vous, qu'est-ce qui vous semble le plus curieux dans cette affaire? C'est l'histoire de cette voiture vendue très vite.
C'est un ensemble de choses, ouais. C'est cette voiture vendue très vite parce que, encore une fois, si on pouvait avoir des doutes, se dire, par exemple, tiens, la vérité est peut-être entre les deux. Et s'ils l'avaient vraiment laissé comme ils l'ont dit, et s'ils reviennent, qu'ils le trouvent inanimé, mort, ils prennent peur et ils cachent le corps. Pourquoi pas? Mais je pense pas.
Vous ne pensez pas plutôt une dispute qui dégénère ce soir-là?
Aussi, oui, oui. Mmh. Une dispute, on pense sincèrement à la carte bleue, au truc crapuleux. Parce qu'on a quand même un témoin qui au début dit oui, ils ont emmené Hugues Guton sur l'auteur de Saint-Étienne pour le réclamer de l'argent. Et on voit bien que mon frère est sur l'auteur de Saint-Étienne et est présent devant distributeur automatique.
Enfin, mmh. On n'aperçoit personne d'autre derrière lui?
Si, bien sûr, un individu qui a la carte bleue dans les mains.
D'accord.
Vous savez, dans cette histoire, ça m'embête de dire ça, mais il y a eu tellement de... Nous, on a des policiers, pas citer les noms, mais qui m'ont dit, et pourtant, que, pardonnez-moi l'expression, je leur cassais les couilles, que je leur cassais les couilles avec mon dossier, qu'ils n'allaient pas aller plus loin que les gardes à vue. J'ai eu une juge d'instruction, la deuxième juge d'instruction, qui nous a hurlé dessus lorsqu'on est entré dans son bureau en nous disant que elle ferait tout pour qu'on n'ait pas accès au dossier, qu'elle ne nous dirait à rien. Vous savez que les familles des victimes doivent être informées tous les 6 mois des avancées de l'enquête.
Oui.
C'est jamais fait. Hein.
Oui.
C'est jamais fait. Je ne suis pas le seul, c'est jamais fait. J'ai des suites avec beaucoup de familles de disparus, ça n'est jamais fait. Il y a des textes, il y a des lois, ça n'est jamais fait. Donc quand vous avez des gens qui vous répondent comme ça, des familles des victimes, la juge d'instruction dont je vous parlais, on lui avait suggéré d'aller fouiller un tunnel ouvert. Pas une galerie de mine, un tunnel ouvert qui pouvait être un lieu de cache d'un corps. Elle l'a fait, c'est très bien. Mais lorsqu'on a été dans son bureau, elle nous l'a reproché en disant qu'à cause d'elle, eh bien, elle avait marché dans la boue, qu'elle s'était salie.
Mm-hmm.
On ne peut pas dire ça des familles de victimes.
Enfin, non. Jean-François, on va continuer à évoquer encore et conclure ensemble après le flash, l'info sur Europe. Vous restez avec moi. On va continuer à parler de cette affaire et puis vous me direz quel est votre sentiment profond dessus, d'accord?
Ça marche, bien sûr.
On se retrouve.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 4 minutes, vous êtes toujours sur votre radio. Si vous nous rejoignez juste maintenant, vous êtes bien sur Europe 1. C'est votre libre antenne qui vous accompagne jusqu'à 1h du matin. Et je suis bien évidemment ravi de passer cette soirée avec vous. Nous sommes depuis le début de cette émission avec Jean-François qui évoque la disparition de son frère, intervenu le 30 novembre 2013. Une disparition inquiétante, puisque son frère est soignant. Ce soir-là, en compagnie de 3 individus, eh bien, va boire des verres sur un plateau sur les hauteurs de Saint-Étienne et puis demande, en tout cas c'est la version de ces 3 individus, demande de descendre de la voiture, de rester sur ce plateau. Et puis ces 3 individus, pris de remords, rebroussent chemin, mais ne retrouvent plus jamais la trace de leur copain. Et depuis, ce frère Jean-François a disparu. Vous évoquiez les errements de l'enquête, le changement de juge d'instruction, trois changements. C'est un grand classique hein, sur ces affaires que les juges se succèdent et il faut reprendre à chaque fois au tout début le dossier. Ils doivent parcourir le dossier de A à Z, ces juges.
J'imagine qu'ils reprennent tout. Ouais. Alors, c'est parfois des regards différents, mais pour nous, famille, c'est toujours difficile parce que c'est toujours un petit peu redémarrer de zéro, finalement.
C'est redémarrer de zéro, mais comme vous le dites, ça peut peut-être apporter aussi une sensibilité différente, un regard différent.
Quand, tout à fait, tout à fait.
Quand ces trois individus ont été passés sous le régime de témoin assisté, en fait, que s'est-il passé à ce moment-là?
Alors, la juge qui les a placés sous le statut de témoin assisté, si vous voulez, elle a fait ça quand même 3 ans après la prise en main du dossier. Oui. Donc, ces gens-là ont été placés sous statut de témoin assisté, et ma foi, après, je ne sais pas trop, ils ont, comme je le disais, il y a eu une confrontation qui était prévue entre les trois, finalement, elle a été faite entre les deux. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. On a une nouvelle juge d'instruction qui est en place, qui a eu, c'est vrai, et moi je l'avais évoqué avec mon avocat, qui a eu la bonne idée de donner le dossier pour relecture à l'ORCPV, qui est un organisme qui est basé à Paris et qui est chargé de s'occuper des affaires non résolues. Donc on espère beaucoup sur ce nouvel organisme qui va avoir un...
C'est l'OCRVP.
Oui.
L'OCRVP, c'est ça, oui. Et c'est de ces policiers dont je vous parlais tout à l'heure, car à leur tête.
Ils font que ça, donc c'est vrai. Que
oui, et puis à leur tête, il y a un commissaire qui s'appelle le commissaire Guichard, que je connais très bien, qui est vraiment investi, vous voyez, et, ainsi que tous ses collaborateurs. Et,
j'en doute pas.
L'intérêt, si vous voulez, de cet organisme-là, c'est que. Il y a tous les corps de police qui sont représentés et on relie vraiment le dossier dans ses moindres détails. Donc, si le dossier a été confié à l'OCRVP, vous avez toutes les chances quand même d'avoir des nouvelles, et en tout cas un suivi, mais surtout des nouvelles, parce qu'il a été remis quand, à l'OCRVP?
Ah, je ne sais pas. On a eu reçu un courrier de la Cour d'appel de Lyon qui nous disait qu'avant, parce que j'ai compris, avant de clôturer l'instruction, et à mon avis, s'il le donne à l'ORCVP, ça veut dire que s'il ne le donnait pas à l'ORCVP, il y aura à mon avis un non-lieu. C'est ce qui nous inquiétait beaucoup, nos familles. Et il va être donné prochainement. Alors les délais, je ne sais pas, je vais voir notre avocat demain à Saint-Etienne. Peut-être que j'en saurai plus, mais ça devrait être imminent. Alors peut-être, et j'espère que la relecture du dossier, prend du temps, parce que c'est un dossier qui devient volumineux. Et que ces gens-là sont sûrement à même de...
Mais en tout cas, vous pouvez voir naître un espoir. Parce que je pense que si le juge en charge de votre dossier, en tout cas celui de votre frère, hein, et de votre famille, pensait qu'il n'y avait pas de possibilité, vous voyez, de pousser un peu plus loin, le non-lieu aurait sans doute été prononcé. Or, si le dossier est confié à l'OCRVP, c'est que du côté des magistrats, on a tout de même l'intuition que ce corps de police-là peut pousser un peu plus loin.
Oui,
vous voyez,
oui. c'est un vrai espoir. C'est vrai que là, c'est un petit peu ce qui nous tient. C'est un vrai espoir que ce dossier soit repris, relu et qu'il avance.
Après, ce qui est totalement curieux dans cette histoire, je vais vous le dire, moi, enfin, si j'étais à votre place, c'est que à aucun moment les trois n'ont été confrontés. Pourquoi il n'y en a eu que deux?
Alors, il y a eu des petites confrontations, me semble-t-il, au début, mais une vraie confrontation qui aurait dû être faite, je ne vais pas dire tout de suite, mais quasiment, quoi, au bout de 6 mois, allez, 1 an, il n'y a pas plus d'éléments, comme je vous le disais tout à l'heure, au début qu'il y en a maintenant. C'est tout simplement des éléments qui n'ont pas été travaillés. Mm-hmm. Et je pense que si ça avait été pris comme il faut dès le début, moi je pense qu'il y avait franchement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y avait des chances de résoudre ce dossier, parce que voilà, parce qu'ils ont mis face à leur contradiction tout de suite avec des questions pressantes. Je pense que ça aurait été difficile de, d'expliquer l'épisode des bières, les horaires, les versions qui entre eux ne cadrent pas. Il n'y en a pas un qui dit pareil. Forcément.
Et puis quand il y a des mensonges comme ça dans ce type d'affaires, pourquoi mentir si on n'a rien à cacher, en fait,
c'est, Tout à fait, bien sûr, oui.
Dans quel état d'esprit vous êtes-vous avec les vôtres, là? Parce qu'une disparition comme ça, ça impacte beaucoup. On se pose tout un tas de questions.
Vous le connaissez, Olivier. C'est des gens, d'ailleurs, qui m'ont conseillé de vous contacter. Rachida, dont la justice a perdu le dossier.
Oui, oui.
C'est les Rachida. Voilà, ça, c'est terrible. Et on est dans le fait qu'on ne peut pas faire de deuil. Qu'on est dans l'inconnu, tout en sachant, donc c'est ça, c'est la double peine, tout en connaissant, en gros, je dis bien, on ne sait pas précisément qui a fait quoi dans ce dossier. Je pense qu'il y a une des deux personnes qui est l'assassin, une des deux, pas les trois, une des deux,
oui.
Je ne dirais pas plus, mais c'est terrible parce qu'on connaît en gros ce qui s'est passé, on se dit qu'on ne le retrouvera peut-être jamais, qu'en même temps, il y avait des fils à tirer, il y avait des choses à faire, ça n'a sûrement pas été bien fait, puisqu'en off, c'est ce qu'on nous dit quand même, hein, ce qu'on
nous
dit.
Oui.
Ça a mal été fait, c'est sûr. Officiellement, on ne vous le dira jamais, mais en off, oui. Et c'est ça qui est terrible, en se disant, mais ils ne vont pas s'en sortir comme ça, c'est pas possible. Il suffit donc de cacher un corps, un peu de maladresse ici, de négligence ici, de la justice qui traîne, et hop, c'est réglé.
En tout cas, votre intime conviction, c'est que l'un des deux est l'assassin.
Oui, je le pense, oui. Je le pense, moi, les policiers et les juges, ça, oui, c'est certain. C'est ce que tout le monde pense. Ils avaient pensé au tout début, mais c'est une hypothèse qui avait été écartée, que ces gens-là disent la vérité et que mon frère soit, par exemple, c'est un lieu isolé, soit renversé par une voiture qu'il ne voit pas. Mais ils ont vite abandonné cette piste, quoi.
Pourquoi ? Pourquoi ont-ils abandonné ? Ils ont étudié le...
Parce que... Oui, sur place, il n'y a pas de trace de sang. Et puis, dans 90% des cas, les gens qui renversent quelqu'un, sans faire exprès, bien sûr, ne vont jamais mettre un corps dans un coffre. Ils vont le laisser sur place, en principe.
Oui, je n'avais pas pensé à ça.
Donc, c'est abandonné très rapidement. Ouais.
Vous avez encore vos parents ?
J'ai plus mes parents, non.
D'accord.
J'ai plus mes parents, moi, c'était mon frère unique, oui.
D'accord, donc vous êtes sa seule famille, en fait.
Il avait un fils qui est avec moi, qui se bat au quotidien avec moi également.
Et il a quel âge, cet enfant ?
Son fils a 33.
D'accord. Et lui, a la même conviction que vous ?
Oui, la même conviction que moi, bien sûr.
Et pour finir, en fait, ces trois individus sont restés à Saint-Étienne ? Ils sont toujours là ou
Je crois savoir qu'il y en a un qui est... Il doit être en prison, le deuxième doit être à Saint-Étienne et le troisième, conducteur de la voiture, comme je l'expliquais suite à un article paru dans la presse stéphanoise, s'est beaucoup déplacé sur toute la France, étonnamment. Il s'est beaucoup déplacé sur toute la France et il doit être actuellement quand même incarcéré parce qu'ils ont... La justice a quand même pu lui coller sur le dos le fait que le soir des fêtes, il est bien acquis qu'il avait le téléphone de mon frère entre les mains. Ça, c'est
ah oui,
trouvé.
Bon.
Oui.
Ça n'est pas un maigre détail, quand même.
Non, c'est là aussi pas un maigre détail. Non.
Et comment il l'a justifié, qu'il avait le téléphone de votre frère ?
Ben là aussi, ses réponses sont complètement fantaisistes. Il dit tout simplement qu'il ne s'explique pas.
Ah oui.
Tout comme il ne se rappelle plus, par exemple, qu'il avait vendu sa voiture.
Alors vous avez raison que d'autres sont allés aux assises hein, pour bien moins que ça. C'est très curieux.
Oui, y compris. Alors, bien sûr, la justice, la police se réfugient, entre guillemets. Bien sûr que c'est plus dur en nous disant toujours mais il n'y a pas de corps, on ne peut rien faire. Non, il y a des affaires où il n'y a pas de corps et on a pu trouver des coupables.
Oui.
Les indices graves et concordants, ils y sont. Mmh. Et vous savez, Olivier, vous avez des juges, c'est vrai, qui auraient pu les mettre. En examen, vous renvoyez l'un ou l'autre devant les assises et vous en avez qu'ils ne le feront pas. Comme disait mon avocat, la justice, c'est vrai, elle est rendue aussi par des hommes et des femmes.
Oui.
Donc,
Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas vraiment que l'OCRVP fasse avancer les choses, mais vraiment, ce dossier est dans les meilleures mains qui soient.
Je le pense.
J'espère que vous nous donnerez des nouvelles s'il y a des avancées.
Je vous en donnerai, Olivier.
N'hésitez pas vraiment à nous rappeler. Et je vous souhaite bon courage parce que je sais que c'est un puissant fond de questions, d'un questionnement éternel tant qu'on ne connaît pas la vérité. Donc, je sais le calvaire que vous vivez, vous et le fils de votre frère.
Et d'autres victimes.
Oui, bien évidemment.
Les familles disparues, vous en connaissez. Vous en connaissez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer.
Je vous en prie, Jean-François.
Ainsi que votre antenne.
Je vous en prie.
Merci beaucoup et bonne fin de soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.